La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin dans ce lieu pour ce jour particulier puisque nous entrons dans la semaine pascale ce dimanche avec ce culte traditionnellement appelé le culte des rameaux. Nous sommes ici en chemin ce matin vers ce qui fonde le christianisme, cette résurrection vers laquelle nous allons en passant par tous les moments importants qui ont été relatés par les évangiles et qui nous mettent à la suite de Jésus. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble et nous sommes ensemble malgré tout ce qui peut vous empêcher de venir nous rejoindre ici dans ce temple. Je salue particulièrement toutes les personnes qui sont à l'étranger et qui continuent à suivre leur église là où ils sont, très loin. Je pense aux États-Unis, à Dubaï, à tous les lieux dont j'ai des nouvelles régulièrement. Merci de garder le lien et de rester avec nous. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec le premier répond qui se trouve dans le psautier français au tout début. Pour les personnes qui sont nouvelles, vous trouverez toute la liturgie et les répons au début. Et c'est David Cassan qui nous accompagne ce matin. Merci David d'être avec nous ce dimanche. Nous louons le Seigneur, louons l'Éternel. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le Roi de gloire. Trop basses, trop étroites les portes de Jérusalem. Pour l'entrée de ce Roi glorieux, il les faudrait plus hautes. Pour celui qui vient, il les faudrait plus larges. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le Roi de gloire, mais ne serait-ce pas l'expression de mon désir de me ranger sous une loi, sous une puissance? Désir qu'il triomphe et qu'avec lui je triomphe, moi aussi, dans une église qui a besoin de grandeur et de majesté pour vivre. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le Roi de gloire, le voici, il vient sur un âne. En fait, la porte est déjà trop large et trop haute pour le serviteur qui va laver les pieds de ses disciples et mourir sur la croix. Nous te saluons du plus profond de notre cœur. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi messager vivant de la paix. Cette paix, ta paix, donne-nous de l'accueillir, d'en vivre et d'en témoigner là où nous sommes, que nous soyons avec toi, par toi, des artisans de paix, malgré les épines qui sans cesse menacent de l'étouffer, en nous et autour de nous. C'est à toi que nous confions notre monde d'enfants et d'adultes, assoiffés de paix et de vie. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 24, les strophes de 1 à 5, une de la première strophe à la cinquième. Merci.
«
Je vous invite à vous asseoir. Justin. Voilà. Nous écoutons la volonté de Dieu à travers les paroles du prophète Zacharie. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il sera contre le char de guerre, le char de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Nous nous présentons devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint nos services à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, à nous qui pardonnons si peu à ceux qui nous ont offensés. Et apprends-nous à pardonner sans blesser ceux à qui nous pardonnons. Par Jésus, notre frère. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce renouvelée sur chacun, chacune de nous. Dieu nous aime avec nos limites. Il nous aime tel que nous sommes et nous invite à cette conversion profonde dans nos vies. Il nous accepte, il nous rejoint et il nous donne le visage de ce qu'il veut pour nous en Jésus. Que son pardon et sa miséricorde nous relèvent et nous fasse vivre jour après jour. Amen. Nous restons debout ensemble pour prier cet homme de la voix, Jésus. Homme de la voix, on te disait prophète, on te disait divin. Tu étais surtout sage et ta foi sur la terre a montré le chemin qui mène l'homme au divin. Homme du geste, on t'attendait comme roi, on t'attendait comme juge. Tu fus l'homme du pardon. Et devant la pécheresse, tu traças sur la terre les lignes de la grâce. Homme de la foi, on te disait blasphème, on te disait impie. Tu fis jusqu'à la mort ce que ta foi disait. Ta croix levée limite notre puissance. Homme de la résurrection, on te croyait fini, inhumé chez les morts, et tu t'es levé et tu es sorti des tombeaux de nos vies. Avec toi, l'existence est devenue éternité. Homme de l'espérance, on te croyait absent, relégué hors du monde. Tu habites notre foi et fais naître nos gestes. Créateur d'horizons, fais-nous croire à la vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, deux textes dans l'Évangile de Jean et cette année, nous cheminerons pour la semaine pascale dans l'Évangile de Jean pour chaque culte qui auront lieu ici et au foyer de l'âme pour jeudi. Dans Jean 10, versets 7 à 11, Jésus leur dit encore « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses brebis. Et dans Jean 12, les versets 12 à 19, le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Je vous invite à chanter le cantique 338 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira jadis les hommes et les femmes qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions nous aussi des évangiles pour ce monde. Amen. Aujourd'hui, avec ce premier culte de la semaine pascale, nous entrons dans ce chemin si important que les premiers disciples du Christ se disaient eux-mêmes « disciples de la voie », les hommes du chemin, les femmes du chemin. Nous sommes donc des siècles après eux sur le chemin à la suite de Jésus. Même si nous ne savons pas toujours précisément à quoi nous nous engageons, quand nous marchons sur ce chemin que Jésus a ouvert devant nous avec son enseignement, sa mort et sa vie éternelle dans la résurrection. Dans cet évangile de Jean, l'adversité est très présente et le berger de cette parabole semble entouré d'adversaires. L'image du berger n'est pas une innovation de cet évangile. On trouve le berger dans de nombreux textes de la Bible. La figure du berger est récurrente dans le Premier Testament. Et dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, voici la parole qu'on attribue à Dieu lui-même et qui demande justice de façon très dure pour son troupeau. Ainsi parle le Seigneur Dieu, « Je m'oppose aux bergers. Je leur réclamerai mon troupeau, je ne les laisserai plus paître mon troupeau, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne fera plus une proie pour eux. » Il semble bien que Jésus soit mis en situation par l'évangéliste de prendre le même engagement que ce Dieu qui parle dans Ézéchiel, cet engagement pour ses moutons. Il est lui-même présenté comme étant le berger d'Israël, comme l'étaient avant lui les rois d'Israël qui étaient pris derrière les troupeaux et oint de l'huile par les prophètes pour devenir roi. Il est lui-même présenté comme ce berger d'Israël qui garde loin des prédateurs un troupeau, lequel cette fois n'a pas écouté les bandits et les voleurs et attend celui qui le guidera honnêtement, sans prédation. Plus loin dans l'évangile, le bon berger est différencié des gardiens intérimaires qui sont loués pour garder un troupeau qui n'est pas à eux. Jésus est donc présenté dans ce contexte comme le lieutenant de Dieu sur terre. Il est affirmé ici par l'évangile de Jean comme celui qui détient le troupeau, comme le Dieu attentif à son peuple. Mais là où l'évangile innove en quelque sorte, c'est quand il utilise l'image de la porte pour parler de ce bon berger. Quelle est cette porte qui protège le troupeau? À quelle réalité s'attache cette image symbolique où un homme devient une porte? Plusieurs références aux élevages d'alors peuvent nous éclairer. Le bon berger est comparé non pas à la porte des bergeries de village qui sont robuste et fermé à clé la nuit pour garder tous les troupeaux de la communauté au même endroit, mais plutôt à la porte que devient le berger lui-même quand il se couche dans l'ouverture des enclos en pierre qui retenaient les brebis durant les veilles de la nuit dans les pâturages. Couché là, dans le seul endroit où les brebis pourraient sortir de l'enclos, le bon berger s'expose lui-même aux prédateurs et donne son corps comme barrière à toute violence qui pourrait être faite à son troupeau. L'évangile va plus loin encore avec l'image de la porte des brebis, la porte des moutons, comme c'est traduit dans le texte que j'ai lu aujourd'hui, mais qu'on appelle traditionnellement la porte des brebis à Jérusalem. Cette porte est celle par laquelle les moutons et les agneaux entraient pour les sacrifices. Placée en face du mont des Oliviers, elle était sans retour pour les animaux qui allaient être sacrifiés au temple comme offrande pour obtenir le pardon des péchés des hommes et acheter ainsi la paix entre Dieu et les humains. Jean transforme cette porte sinistre pour les animaux sans défense en une porte par laquelle désormais les animaux pourront entrer et sortir, aller et venir, sans peur de mourir, et ils trouveront des pâturages. Jésus est la porte des brebis vivantes, et c'est un tournant décisif pour la foi de celles et ceux qui ont choisi de le suivre, les gens de la voie, souvent venus du judaïsme et qui étaient habitués au sacrifice. Le récit ici abolit tout sacrifice. En effet, après la mort de Jésus, tué pour avoir défendu sa vision pacifique et juste de la foi, l'évangile de Jean démontre que le sacrifice n'est plus nécessaire pour être en paix avec Dieu. Alors que le temple a été détruit, au moment où on écrit l'évangile de Jean, les écrivains de cet évangile sont devant un défi important. Ils doivent réinventer un monde religieux pour remplacer celui qui s'est écroulé. Au moment de l'écriture de l'évangile de Jean, la diaspora des Judéens, loin de la ville sainte, a sonné le glas de la religion sacrificielle du temple et la crucifixion de leur prophète qu'ils identifiaient au Messie venu les libérer a définitivement, pour les gens de la voie, fait taire tout espoir de libération concrète du peuple d'Israël. Alors les écrivains de l'évangile de Jean vont relire Ézéchiel, le prophète de l'exil à Babylone, le voyant de la ville sainte, celui qui a les visions de Jérusalem, dont le plan est tracé au cordeau et qui peut être reconstruite grâce au grand architecte d'Airain, qui lui montre que le temple a gardé toute sa signification et que ses mesures symbolisent encore quelque chose pour la pratique des croyants. Mais pour l'évangile de Jean, Jésus est la nouvelle porte des brebis et le berger d'un peuple nomade reparti en exil. Ce peuple que les fresques égyptiennes représentent monté sur des ânes et qui d'âge en âge reviennent de leurs exils successifs sans que jamais leur Dieu ne les abandonne là où ils sont. Jésus est la figure de celui qui se défait de sa vie pour celles et ceux dont il a la responsabilité. Il entre sur un âne tel le roi David, le bien-aimé de Dieu, dans la ville qui n'a déjà plus le même rôle pour ceux qui écrivent le récit symbolique des derniers jours de Jésus. Les murailles et les portes de la ville de David sont déjà différentes. Elles laissent déjà entrer la vie alors même que Jésus est décrit comme l'agneau qu'on mène au sacrifice. C'est un Dieu de la vie qui est ici à l'œuvre. Et Jésus va le démontrer en allant jusqu'au bout de son chemin pour mieux renaître. Est-ce cette voie dans laquelle nous sommes enjoints à nous engager ? Un règne nouveau a commencé à partir du moment où un homme a décidé de ne pas laisser tomber ses disciples et la payer de sa vie. Pas pour que tous nous payions de notre vie, non, mais pour que nous ayons la vie en abondance. Pour toutes celles et ceux qui lui ont fait confiance, qui ont suivi son enseignement, Jésus ne se reniera pas. Il ne se défilera pas. Il installera un nouveau règne dans la ville de ses ancêtres, un règne où la prophétie s'incarne, où les promesses s'accomplissent, où le Maître est digne de confiance, digne de la confiance de ceux qui le suivent. Confiance, justice, accomplissement d'une promesse de libération. Tout cela semble tellement idéaliste dans notre actualité. N'est-ce pas un mirage que cette scène dans laquelle un homme s'engage pour le bien d'une foule qui ne comprend pas encore la portée de son acte? Pouvons-nous croire aujourd'hui à ce récit merveilleux qui nous prouve que l'être humain peut être héroïque pour le bien de tous en donnant sa propre vie pour acquérir la liberté de tous? Au moment où nous n'entendons que menaces de guerre, que défense d'intérêts financiers sans mesure, alors que les volontés individuelles de quelques prédateurs semblent pouvoir l'emporter sur le bien commun et le dialogue entre tous? Comment croire à cette figure d'homme engagé pour tous les autres jusqu'à l'oubli de soi? Est-ce que cela existe encore? Et la foule qui le suit, comprend-elle qui elle est en train de suivre vraiment? Mais le Christ qui entre ce jour-là à Jérusalem, dans la ville où règne alors la corruption et le marchandage le plus cynique avec les consciences des pèlerins, venus pour expier des fautes dont on les a convaincus, pour qu'ils payent et qu'ils engraissent ceux qui se repaissent de la culpabilité des plus faibles, ce Christ est sauveur parce qu'il ouvre un horizon pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'être soulagés du poids qu'on leur fait porter indûment. Jésus est le Christ parce qu'il rompt définitivement avec les trafics de l'emprise et de l'inégalité. Il rompt avec le mensonge qui permet de faire plier le genou à celles et ceux qui pensent qu'ils ne font jamais assez pour être aimables et aimés de Dieu. Il libère ce peuple des manipulations qui les accablent. Il met fin à la théologie sacrificielle qui endettait le peuple, ce troupeau sans défense qui finissait par être livré au loup. N'est-ce pas d'actualité? À la suite de quel libérateur marchons-nous dans nos vies? En qui plaçons-nous notre confiance? Dans quel discours mettons-nous notre crédit? Nous entendons à longueur de journée les paroles outrancières des prophètes de malheur de notre temps, qui renient toute justice et tordent le cou à toute vérité. Des mots, tout cela, me direz-vous. Mais si nous ne prenons jamais au sérieux les mots qui caractérisent notre humanité, alors comment nous orienterons-nous? Et que serons-nous capables de dire à notre tour pour désamorcer la violence que masquent ces mêmes mots? Comment pourrons-nous dénoncer le mensonge et débusquer les voleurs et les brigands de notre époque qui mènent des troupeaux entiers à leur perte? Bien sûr, les mots ont de l'importance, même quand ils sont suivis de reculades, comme nous le voyons en ce moment même dans la politique internationale, d'États dits modernes et démocratiques. Les mots sont notre bien commun et les incarner a encore un sens aujourd'hui. Combien de prophètes de la liberté croupissent dans des geôles parce qu'ils ont osé parler? Combien de Christ modernes, aujourd'hui encore, sont réduits au silence par la torture et la mort, comme Jésus le fut en son temps, à cause de mots que la pseudo-justice de quelques dictatures, parfois théocratiques, qualifie de blasphème. L'entrée du juste qui va mourir dans sa ville sainte nous montre que les porteurs de liberté d'aujourd'hui, qui n'hésitent pas à s'engager pour que tout un peuple puisse vivre libre, sont en danger quand ils redonnent espoir à tous et sont souvent abandonnés. Ils sont les cibles aujourd'hui comme hier de ces voleurs et de ces brigands dont parle l'évangile de Jean, ceux dont les systèmes de mensonges permettent de vivre tranquille aux dépens de tous les autres. Mais si le mal ne change pas en plus de 2000 ans, le bien, lui, résiste toujours malgré tout, et la vie triomphe de ses forces de mort. C'est ce que l'Évangile nous annonce aujourd'hui, en reconnaissant celui qui avait redonné la vie à Lazare. La foule décourage ceux qui voudraient bien que ce juste n'existât pas, qu'il ne fût jamais entré dans cette porte et qu'il n'ouvrit surtout pas la voie à la liberté de tous. Les pharisiens finissent par se rendre compte de la force de ce personnage qui entre humblement sur le petit d'une ânesse, comme les rois d'Israël qui venaient au service du peuple avant lui et ils disent « Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. » Oui, le monde s'en est allé à sa suite. Alors ce monde-là, cette foule qui croit à la parole donnée, à la liberté toujours possible, cette foule aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Si nous reconnaissons où est la force de vie, où est la promesse véridique, où est la vérité de nos existences en Dieu, alors nous serons si nombreux à marcher sur le même chemin que nous découragerons les voleurs, les brigands et les loups de ce monde. À ceux qui ne croient pas à la liberté et à la justice, ceux-là diront entre eux encore aujourd'hui, vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter le psaume 23, bien sûr, avec les strophes 1, 2 et 3. Merci beaucoup, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager des annonces et c'est notre présidente Aurore qui va nous partager ces annonces.
Merci Béatrice. Je pense qu'on va pouvoir passer un petit mot au cœur de l'oratoire pour nous faire répéter le psaume 23.
Non mais c'est normal que sur le chemin parfois on trébuche.
Oui, on a bien trébuché. Merci David. De nous accompagner. Vous savez que David est en train de jouer avec un orgue qui a quand même deux moteurs en moins, les deux moteurs latéraux, depuis quasiment un an. Un grand merci à lui. La bonne nouvelle, c'est que les moteurs ont été enfin commandés. Je crois que c'est 15 semaines, donc, mais ça va arriver, on va y arriver. Et donc un grand merci à tous, puisque nous finançons les travaux de l'orgue cette année par le résultat positif de l'année dernière, exceptionnel. Donc, grand merci à vous. Grand merci à vous aussi de nous avoir soutenus en 2024. Pour ceux qui l'ont fait, si vous n'avez pas reçu votre reçu fiscal, ça n'est pas normal. Donc, Jean-François Jouffray, notre trésorier, est là ce matin. Moi également. Donc, si vous ne l'avez pas reçu par email ou par courrier, pour ceux dont nous n'avons pas l'email, surtout, vous nous prévenez, s'il vous plaît.
Et j'aurais juste un petit mot à rajouter, Aurore, si tu me permets, pour la question des dons nominatifs. Beaucoup ici donnent à la collecte le dimanche matin de façon tout à fait anonyme. Et pourtant, ce sont des soutiens fervents et fidèles de notre Église. Et nous avons vraiment besoin de savoir que vous êtes là comme soutien de cette Église. Et donc, n'hésitez pas à faire, même si ce n'est pas tous les dimanches, évidemment, mais une fois par an au moins, faire un don nominatif par le don joyeux du site internet ou alors par un chèque que vous donnez avec votre adresse et vous aurez un reçu fiscal et vous serez inscrit au nombre des donateurs de cette Église, ce qui sera une façon aussi de rentrer en adéquation entre la vitalité de notre Église et le nombre de donateurs que nous avons effectivement dans cette Église avec leur nom. Donc voilà, je vous indique ça parce que souvent, vous êtes très discret et vous ne dites pas que vous donnez. Et nous, on n'attend qu'une chose, c'est qu'on sache vraiment que vous donnez et que ce soit un soutien sans faille pour notre Église. Merci à vous en tout cas.
Donc pour un don nominatif avec reçu fiscal, c'est donc par chèque, par virement ou sur notre site internet, pour préciser. Alors parlons de Pâques, avant d'annoncer l'offrande. Donc cette année à nouveau avec le foyer de l'âme, avec toujours Dominique Imbert. Donc jeudi saint, j'allais dire comme à notre habitude au foyer de l'âme, avec toi qui fais la méditation cette année. Béatrice.
Oui, oui.
Donc, alors il va falloir quand même jongler sur les horaires parce que le jeudi saint c'est 19h30.
Voilà.
Vendredi saint ici même avec David Cassan également, ça sera Dominique Imbert qui sera en chaire pour la méditation.
Pour la méditation, mais il y aura la lecture de la Passion selon Jean, qui se fera ici aussi, accompagné par les passages musicaux que voudra nous donner David. Merci David d'être avec nous le vendredi.
Samedi, c'est une première et je vous demande donc d'être aussi très nombreux à venir parce que Béatrice a décidé d'organiser un concert spirituel samedi après-midi, donc le samedi de Pâques à 18h.
Voilà, c'est la petite suite qui vient. Ils sont déjà venus pour un concert spirituel ici et avec Olivier Plaisant comme chef de cet ensemble. Et c'est vraiment une merveille. Donc venez parce que les voix sont extraordinaires et c'est accompagné avec le petit orgue ici par une organiste qui a l'habitude de les accompagner. Et vraiment, venez partager ce moment du samedi saint. Samedi soir, donc à 18h, concert spirituel ici même avec la petite suite.
C'est ouvert à tous, il n'y a pas de billetterie, donc vraiment venez nombreux. Samedi, dimanche, il n'y a pas de doute, nous serons très très nombreux ici, comme tous les dimanches de Pâques. Ouverture des portes à 10h, 10h30, ça sera Sarah Kim qui nous accompagnera et tu seras en chaire. Et puis il y aura des surprises, parce qu'à Pâques, on aime bien des surprises. Voilà, c'est la joie. Donc vraiment, venez
en
si
fait,
vous d'ailleurs vous
n'avez en œuf de Pâques.
Oui.
Mais fallait pas le dire.
Voilà. Mais non, mais d'ailleurs si vous n'avez jamais participé à un Pâques ici, on partagera la scène, bien entendu. Venez parce que c'est vraiment un grand grand moment de joie aussi de voir là l'Église pleine à craquer. Grand merci à vous d'ailleurs d'avoir affronté le marathon de Paris ce matin, d'avoir certains. Alors il y a eu plusieurs techniques, hein, passage souterrain, partir en petite foulée pour traverser.
Ouais,
enfin,
ouais.
En tout cas, vous êtes là et vous n'avez pas eu peur non plus des au moins 10 sentinelles qui étaient devant notre église. Ils n'étaient pas pour nous les sentinelles, hein, les messieurs avec les mitraillettes, c'était pour surveiller les accès au marathon. Voilà. Grand merci à vous. C'est le moment de l'offrande. Nous avons donc le don joyeux.
Voilà, sur vos portables, vous pouvez faire le don joyeux si vous voulez. Et puis, bien sûr, avec les paniers connectés et par chèque, si vous souhaitez devenir donateur nominatif dès ce matin.
Merci. Merci à vous. Bon dimanche.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te présentons ce monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces figures christiques que nous croisons dans nos journaux, au bout du monde parfois, tout près de nous aussi, ces femmes qui retirent leur voile au milieu d'une place parce qu'elles veulent la liberté pour toutes les femmes de leur pays, et qui finissent en prison, bastonnées et parfois tuées. Ces hommes qui partent au bout du monde, ces femmes qui partent au bout du monde sur des lieux terrifiants pour informer comme journalistes et qui nous donnent des nouvelles de ces pays où peut-être aucun de nous n'oserait aller et qui finissent emprisonnés pour fait d'espionnage ou quelque autre raison que l'on trouve. Toutes ces personnes qui combattent pour la liberté, pour la vérité, pour nous éclairer, pour que l'être humain reste dans sa dignité d'être humain, avec la possibilité de choisir son chemin, avec la possibilité de développer sa vie, avec les êtres qu'il aime. Éternel, nous te remettons toutes ces combattantes et tous ces combattants de la justice et de la vérité. Et nous te demandons de considérer cette croix trop souvent vénérée comme un objet de culte, comme le repoussoir absolu de la violence humaine, contre laquelle nous devons nous aussi combattre. Éternel, nous voulons nous placer sous ton regard dans cette semaine particulière où nous faisons mémoire de textes qui nous engagent et nous emmènent à la suite de celui dont on a fait un martyr et qu'on a transformé en un nouveau bouc émissaire, comme s'il fallait qu'un meure pour que les autres aient la paix. Éternel, permets que nous ne soyons jamais dans cette logique sacrificielle. Redonne-nous le prix inestimable de toute vie, et permet que nous ne soyons jamais de ceux qui pensent banal de mourir pour son droit. Éternel, en cette semaine pascale, nous sommes dans le même calendrier que beaucoup de croyants cette année. Que nos mots et nos regards ne sois jamais méprisant pour la religion de l'autre, et que nous nous retrouvions dans ce même désir de paix et d'amour dans ce monde. Éternel, nous te demandons le courage et la vaillance que tu veux pour nous, afin que nous puissions nous aussi annoncer cette liberté que tu es venu apporter dans le cœur, la pensée et l'enseignement de Jésus. Et ensemble, nous pouvons te dire avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous cheminons ensemble sur le même chemin. Allez dire autour de vous qu'il existe une possibilité de changer le mensonge en vérité. Allez dire autour de vous que ce n'est pas une fatalité d'avoir l'injustice au pouvoir dans nos sociétés. Allez dire autour de vous qu'ensemble nous pouvons évoluer et permettre aux plus fragiles d'entre nous d'avoir de véritables droits. C'est notre tâche à tous ici. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel qui nous garde chemine avec nous. Il vous bénit. Amen.